sur France Culture, en direct de la Maison de la Radio avec Benjamin Hu à la réalisation, Stéphane Poitevin à la technique, Auriane Delacroix, Jean-Christophe Brianchon et Henri Leblanc à la programmation, Laura Dutèche-Pérez et Philomène Villard, Marceau Vassy pour la préparation. Bonjour à tous. Et toi l'artiste, dessine-moi le monde d'après. Sera-t-il mouton ou chauve-souris? Sera-t-il tête de mort ou smiley? Alors qu'une partie des musées s'apprête à rouvrir malgré la contrainte sanitaire, artistes, directeurs d'institutions et galeristes appellent l'art à reprendre ses droits et les pouvoirs publics à soutenir les artistes dans la crise. Pour ouvrir cette nouvelle semaine, l'artiste plasticienne Annette Messager est notre invitée. Lion d'or de la Biennale de Venise en 2005 pour son œuvre Casino, prix Premium Impérial en 2016 pour l'ensemble de sa carrière. Elle participera à l'exposition collective Unprecedented Times au Kunsthaus Bregenz en Autriche à partir du 5 juin.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et nous avons plaisir à vous avoir avec nous aujourd'hui. Annette Messager, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Si je reprends le titre de cette exposition collective qui va bientôt avoir lieu en Autriche, où on retrouvera une ou plusieurs de vos œuvres, vous nous direz peut-être lesquelles. Unprecedented Times, des temps sans précédent. Qu'est-ce que ce titre vous inspire? Est-ce que nous vivons pour vous aujourd'hui dans des temps sans précédent?
Oui, évidemment. Je ne suis pas une sorcière. Je ne connais pas l'avenir, et personne ne le connaît. Donc, on ne sait pas. Ce sont des temps incertains. Moi, j'ai appelé ma participation à Bregenz certitude incertitude. Et donc, voilà. J'ai reçu un mail du directeur de la Kunsthalle de Bregenz il y a trois petites semaines, en me disant « Voulez-vous exposer en juin à Bregenz ?» Alors, je réponds « Juin 2021 ». Il me répond « Non, le 5 juin 2020 ». Ah, là, je me suis dit « Mais il est fou, celui-là ». Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, j'ai répondu « Écoutez, il faut être flexible, il faut être souple, il faut s'adapter. Les artistes, comme les musées, comme les institutions, comme les transporteurs, comme les galeries, puisque tout est incertain. Donc, je ne vais pas vous envoyer d'œuvres. Ça me paraît, il n'y a pas de transporteur, j'ai pas de matériaux pour empaqueter les œuvres, j'ai personne pour m'aider. Donc, ce ne sera pas des originaux. Si vous acceptez, je vais faire quelle est ma possibilité? Ben, c'est Internet. Donc, de vous envoyer des choses reproduites à des dimensions différentes que je vais choisir. Je vais refaire plein de photographies mal refotographié avec mon téléphone, mais ça sera comme ça, c'est comme un brouillon d'exposition, et je préfère que ce soit même mal refotographié, ce que les institutions n'aiment pas du tout. Hein.
Mais là, il a accepté.
Il a tout accepté. Alors, j'ai fait 70 photos comme ça, très vite.
De quoi? Qu'est-ce que vous avez envie? Justement, qu'est-ce que vous avez eu envie de photographier? Qu'est-ce que ces 70 photos vont montrer réunies ensemble?
En fait, en octobre, pour tout vous dire, en toute intimité, j'ai eu une petite opération. Et tout va bien, mais j'ai compris à ce moment-là que j'étais vraiment mortelle, ce que j'avais mis de côté. Donc j'ai commencé à dessiner beaucoup de têtes de mort, de toutes sortes de têtes de mort. Et puis après, ce virus est arrivé, donc je me suis dit, ben continuons, je suis en plein dans le sujet, si je puis dire. Donc j'ai fait énormément de dessins qui sont devenus de plus en plus japonais épurés, parce que je commençais à manquer de matériel, donc je faisais juste un trait très fin. Je n'avais plus un bon papier, mais tout ça c'est bien, il faut s'adapter, il faut trouver des trucs différents, nouveaux, puisque tout est nouveau. Donc tout ça m'a intéressé beaucoup, et j'ai refotographié, et je lui ai proposé une installation très très différente, avec des originaux, ça serait pas pareil. Donc des tirages différents, plus grands, plus petits, j'ai fait un plan. Alors évidemment, normalement le plan est fait par un assistant qui fait ça très très bien au millimètre près, ce que je ne sais pas faire, mais j'ai envoyé un plan au crayon que j'ai rescanné, etc. Il a pigé et voilà, et ça a l'air d'être bien parti.
Pendant, parmi les, ces têtes de mort que vous aviez commencé à réaliser avant l'épidémie, avant le confinement, il y en a une en tout cas que vous avez peut-être dessinée juste dans le moment, c'est ce doigt d'honneur contre le virus avec une tête de mort masquée qui a été diffusée par le Centre Pompidou Metz. Avec ce sous-titre, cette légende, voici un de ces dessins de confinement d'Annette Messager, doigt d'honneur contre le virus, pour parler des fragiles passerelles de certitude et de connaissance.
Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup faire des doigts d'honneur de toute manière. J'aime beaucoup ça. Et donc, oui, j'ai fait un doigt d'honneur à la mort, où j'ai fait des dessins où c'est des têtes de mort, mais il y a une toute petite fleur qui arrive, qui est plus forte que la mort, qui finalement, parce qu'on va gagner. On va gagner, c'est sûr. L'humain est très fort. Et il va s'en sortir, bien sûr. C'est certain. Moi, je suis pour ça optimiste.
Est-ce qu'il y a un autre projet que vous avez eu envie d'entamer pendant cette période? Est-ce que vous avez finalisé ce que vous aviez commencé avant, ou est-ce que la période vous a quand même donné envie de concevoir une œuvre particulière? Est-ce que ces semaines de confinement furent d'une certaine manière inspirantes aussi pour vous?
Oui, en fait, j'ai d'autres choses, un autre endroit que je travaille, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est pas bien, je sais que c'est pas bien. J'ai parti sur un projet, et peut-être aussi avec tout ce qui se passe, m'a fait rendre compte que ça n'allait pas du tout. Ça a augmenté mes doutes sur cette pièce que j'étais en train de faire. Donc, je l'ai pas abandonnée, mais si vous voulez, je la mets un peu en suspens, je la regarde, je la détruis, je la casse. En fait, je ne sais pas où j'en suis.
Vous ne savez pas où vous en êtes, et vous avez aussi souvent dit, Annette Messager, que l'art, à vos yeux, ne sert à rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inutile, l'art, non?
Je pense. Bien sûr, c'est pas du tout inutile. Au contraire, l'art est l'art sans art, de toute manière, il n'y aurait pas d'humain. L'humain est lié à la culture, à des choses de l'esprit. Évidemment que la culture, c'est très très important, mais je ne sers en rien. L'art, je vais dire une chose horrible, mais l'art est élitiste pour moi. Je veux dire qu'il y a beaucoup beaucoup d'artistes, mais il y en a peu qui... Ben oui, c'est élitiste, c'est comme ça. C'est pas celui qui travaille le plus qui va réussir. C'est pas le plus intelligent, surtout, qui va réussir. C'est un mélange de... Je vais dire un mot de grâce. De grâce, on l'a pas toujours. Alors, c'est un mot que j'aime pas tellement, parce que il est peut-être lié à la religion ou à une sorte de mysticisme. Mais on a des états de grâce et par moments, on n'en a pas.
Est-ce qu'il faut, cependant, pour reprendre les mots de Catherine Grenier, de la Fondation et de l'Institut Giacometti, est-ce qu'il faut réouvrir les musées, les lieux, les galeries, pour aussi solidairement réaffirmer le rôle de l'art dans la société et dans nos vies individuelles? C'est-à-dire que, oui, c'est un instant de grâce, mais est-ce que vous croyez, au-delà de ça, que quand même, l'art a un rôle à jouer aussi dans nos vies, et notamment dans des périodes de crise comme celle-ci?
Mais je crois que d'autant plus, puisque on est très démunis et qu'on a besoin de culture et de voir des choses et de les voir peut-être d'une autre manière, mais en tous les cas, on a besoin de se nourrir spirituellement. C'est très très important, donc je crois que les musées doivent rouvrir. Si les supermarchés sont ouverts, je vois pas pourquoi les musées, avec toutes les règles possibles et contraignantes, c'est pourquoi Catherine Grenier a eu bien bien raison d'ouvrir son institut, et beaucoup beaucoup de public et de n'étaient jamais venus là, des gens du 14e arrondissement ont découvert ce lieu où un petit lieu avec peu de public et je pense qu'elle est très contente.
Nous l'avions reçue et vous aussi, elle au moment de l'ouverture de l'Institut Giacometti à Paris, nouvelle initiative dans la capitale, et vous lorsque vous aviez accepté la carte blanche qu'elle vous avait proposée pour dialoguer, discuter avec le sculpteur suisse chez lui. Cette exposition, elle s'appelait Nos Chambres et vous aviez donc fait dialoguer vos œuvres avec celle de Giacometti. L'Institut Giacometti, juste je le rappelle, a été vraiment un des premiers lieux à s'être déconfiné à Paris. C'était juste après le 11 mai, rouvrant ses portes à une nouvelle exposition qui avait commencé juste avant le confinement, à la recherche des œuvres disparues de l'artiste. Est-ce que vous vous souvenez de cette pièce que vous aviez présentée, la plus importante d'ailleurs en termes de taille, durant cette exposition Nos Chambres, où déjà vous mettiez d'une certaine manière en scène la catastrophe, hein. C'était un paysage de désolation avec cette grande demi-pendule qui indiquait le temps.
Oui, je m'en souviens très bien. Oui, c'était une partie de la pièce parce qu'elle est beaucoup plus grande que ça normalement. Où les seuls survivants, c'était des Giacometti, c'était l'homme qui marche. Et donc en ce moment, je crois qu'elle a raison. Elle va faire une exposition sur l'homme qui marche parce qu'on ne marche pas beaucoup. Et donc, il faut montrer qu'on doit marcher, qu'on doit aller de l'avant, qu'on doit continuer, qu'on doit faire des choses. Vous voyez, moi, j'ai découvert que j'étais une personne à risque. Ça veut dire vieux, quoi. Alors, on entend tout le temps ce mot, personne à risque. Vous faites attention, vous voulez nous confiner plus longtemps. Et il y a des expressions comme ça. Bon, je suis une personne à risque. C'est étrange de découvrir ça.
Cette œuvre qui était exposée, elle avait été inspirée. Qu'est-ce qui vous l'avait inspirée à vous ? C'était un pressentiment, une intuition ?
Je ne sais pas. Je crois que de toute manière, depuis longtemps, depuis toujours, il y a beaucoup de catastrophes, de guerres, de choses qui ne vont pas, qui partout dans le monde. Donc, ce sont des choses très noires, comme brûlées. Des sortes de villes, pas en ruine, mais disons brûlées, oui, plutôt brûlées, et émergent des Giacometti avec des ombres, des petits moteurs qui tournaient, et une horloge qui indique le temps. Donc oui, pour moi, j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup Giacometti, et cet homme qui marche est un peu le symbole aujourd'hui de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit être, c'est-à-dire continuer. Mais sûrement continuer pas de la même manière. Par exemple, dans le monde de l'art, on doit être flexible, et pas seulement les artistes, mais les institutions, le monde de l'art doit peut-être faire des expositions différentes. Les assureurs ne mettent pas des prix extravagants. Je crois, à mon avis, qu'ils vont encore augmenter leurs assurances en se disant que c'est encore plus compliqué. Mais tout ça est peut-être à repenser. Ou peut-être que ça sera le monde d'avant, comme dirait Houellebecq, en pire. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas devine.
Le musée Soulages à Rodez a aussi rouvert ses portes la semaine dernière, le jeudi de l'Ascension. On peut y découvrir les collections du maître de l'Outre Noir. Je vous propose juste d'écouter, Annette Messager, les mots de Pierre Soulages. C'était il y a 6 ans, lors de l'inauguration de ce musée, son musée à lui, à Rodez.
Les gens qui me connaissent peu, qui voient mes toiles, il faut leur demander de regarder avec les yeux et non pas avec ce qu'ils ont dans la tête. Parce que ce qu'ils ont dans la tête, il y a, c'est noir. Mais si regardez les yeux, ils s'aperçoivent que ce n'est pas noir. Et que c'est tout autre chose. Et c'est la lumière qui vient de la toile vers vous. Mais si on dit ça seulement, c'est une définition optique. Or, ce que je fais, ça n'a rien à voir avec une définition optique. Ce que je fais, c'est ce qui me dirige, c'est ce qui se passe en moi quand je travaille avec la lumière réfléchie par le noir. Et c'est autre chose. C'est pas une effet optique, c'est un champ mental.
On entend, comme vous l'avez évoqué aussi vous, Annette Messager, cette idée que le monde de l'art ne sortira peut-être pas indemne de cette crise, qu'il va devoir se repenser, le marché de l'art notamment, la manière dont on présente les œuvres, hein, dont elles circulent aussi. Pendant ces semaines de confinement, il y a de nombreuses initiatives sur Internet qui ont été prises de la part des artistes ou des musées. 10,5 millions de visites virtuelles enregistrées par le Louvre, hein, durant cette période, beaucoup venaient des États-Unis. Qu'est-ce que ces visites virtuelles ne permettent pas. On entend là Pierre Soulages, 100 ans l'an passé, raconter l'expérience de la rencontre entre une œuvre, un artiste, un regardeur, la manière dont sa couleur se réfléchit aussi. Est-ce que l'expérience du musée offre vraiment quelque chose de si particulier que ce virtuel n'a été qu'une période entre parenthèses, une sorte de pis-aller que l'expérience même de la rencontre entre l'œuvre et le regardeur ne pourra pas remplacer?
Ben, je crois que les deux vont rester, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres originales ou des petites choses ou des dessins, mais aussi il y a beaucoup de films actuellement, beaucoup de vidéos, donc les vidéos, si on les voit pas en très grand, on peut les voir en petit sur son ordinateur. Tout ça va faire partie de se développer encore plus. Mais effectivement, que de voir en vrai une œuvre, c'est irremplaçable. Ça ne peut pas se remplacer. C'est comme Soulages parlait du noir. Mais moi, si j'ai fait aussi beaucoup de choses en noir, c'est parce que le noir égalise tout. C'est-à-dire que s'il y a différents personnages, il y en a une en blanc, j'ai ceci. Non, là, noir, c'est tous uniformes, tous pareils. Il n'y a pas quelque chose plus important que l'autre. C'est une égalité totale.
Quel souvenir vous avez d'une rencontre importante dans votre vie avec une œuvre, avec un moment d'art qui a aussi révélé quelque chose en vous?
Oh là, c'est une question difficile et il n'y a pas de réponse parce que, bon, moi j'avais un père qui faisait de la peinture, qui était architecte et qui, en fait, il aimait mieux être peintre qu'architecte. Et toute ma vie, à 7h du matin, parce que personne ne voulait plus l'écouter à la maison, il me parlait d'art, il me parlait de Soutine, il me parlait même de Bacon, alors que bon, Bacon émergeait à ce moment-là, ou d'art brut. Donc j'ai tous les matins, il m'amenait des croissants pour que j'écoute, ça fasse passer ses discours. Mais j'ai été bercée par ça, donc... Je ne peux pas dire qu'il y a une œuvre qui m'ait particulièrement touchée, vraiment. Et moi, je suis un peu touche-à-tout, c'est-à-dire que je suis un peu une voleuse, c'est-à-dire que je aussi bien aller dans la rue, de voir des gens, comment ils marchent, leurs gestes, leurs attitudes, que d'aller voir une exposition ou que de regarder quelque chose sur Internet. Tout est intéressant. Tout est intéressant.
Et durant le confinement, vous avez été privé de ça, hein, de cette principale source d'inspiration, la rue, les gens.
Des cafés, oui.
Ouais,
des
et
cafés,
ces fragments de vie qui vous inspirent habituellement dans vos œuvres. Peut-être vous avez quand même réinvesti autrement un espace que vous aviez déjà mis en avant, justement dans cette exposition à l'Institut Giacometti et dans d'autres de vos œuvres, c'est la chambre. On a vraiment tous compris aussi l'importance d'avoir une chambre à soi, hein, au sens où Virginia Woolf l'entendait durant ce confinement, hein.
Oui, je dois dire que je suis une privilégiée. J'habite en banlieue parisienne. J'ai des espaces différents qu'à moi, et je peux circuler. Je peux et qui sont très délimités. Il y a la base 1, base 2, base 3. C'est un peu militaire mes appellations. Et personne n'a le droit la base 1, c'est là où j'habite, mais dans les ateliers, personne n'a le droit d'y aller, sauf moi. Donc. Et les gens qui travaillent avec moi. Mais c'est vraiment à moi, où il y a des livres par terre qui sont ouverts à des pages que je ne lis pas, mais j'ai profité du confinement pour les regarder plus, pour regarder des catalogues, des choses que je remettais toujours plus tard. Et j'ai l'impression que voilà, ils sont ouverts à une page et que et voilà, que ça monte et que ça fait quelque chose.
Mais qu'est-ce qu'elle incarne cette chambre pour vous? C'est comme un refuge, un refuge aussi pour votre imaginaire, pour l'intimité.
C'est à soi, c'est moi, pas les autres. Donc c'est ça. Je ne sais pas si c'est un refuge, mais c'est à moi, c'est à personne d'autre. Et vous sauf au chat.
Qui est le seul autorisé à y entrer?
Partout.
Dans toutes les pièces, dans toutes les chambres. Alors. Oui. Mmh. Oui. La chanson d'Hélène, extrait des choses de la vie.
Ce soir, nous nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre, le soleil.
Jean-Loup Dabadie, l'académicien et écrivain, avait co-signé le scénario du film Les choses de la vie de Claude Sautet, sorti il y a 50 ans exactement, avec Romy Schneider et Michel Piccoli, que l'on retrouve en duo dans cette fameuse chanson d'Hélène, écrite par Dabadie. Elle est devenue la chanson du film, alors qu'elle n'y figure même pas. Assez étonnant. Il avait consacré, Jean-Loup Dabadie, un long entretien en 2015 à Jérôme Sandelard, à voix nue, à réécouter sur le site de France Culture, midi 22.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Les choses de la vie, c'est un joli titre de film, Annette Messager, mais ça pourrait être aussi le titre d'une de vos œuvres. Vous qui êtes une collectionneuse d'objets, de tous ces petits fragments du quotidien que vous retravaillez ensuite à votre manière. Il y a d'ailleurs un musée à Londres qui a lancé une collecte d'objets liés au moment. Est-ce qu'il y a pour vous un objet du quotidien qui restera pour vous le symbole de cette période de confinement, un objet duquel vous vous êtes particulièrement entouré?
Ben, le masque. Le masque est très important. Le masque, je ne sais pas le mettre, je touche avec mes mains, je me fais engueuler tout le temps. Mais votre chanson est un peu trop sentimentale, hein, pour moi, des choses de la vie. C'est pas vrai que le soleil ne rentrera pas. Alors, le soleil rentrera de nouveau. Tant qu'il y a de la vie, il y aura du soleil. Seule le fin de la vie empêche, seule la mort fait qu'il n'y aura plus de soleil. Mais c'est un peu trop, pour moi, un peu trop, c'est too much tout ça.
Ouais, vous n'êtes pas une sentimentale alors, en tout cas pas en écoutant cette chanson-là.
Non, mais pas.
Oui, c'est un peu trop sucré.
Oui, c'est un peu trop sucré, je trouve.
Ah, ça parle quand même de...
Donc, vous savez, moi j'ai vécu beaucoup avec des gens malades. Je suis née à Berck où c'était les hôpitaux qui comptaient. Et les malades ne parlaient jamais de leur maladie. Les malades, quand on les voyait, avaient envie qu'on s'amuse avec eux, qu'on plaisante. Mais j'ai un père qui a été très malade et jamais il ne m'a parlé de sa maladie. Jamais, jamais. Au contraire, il faut autre chose. C'est la vie qui compte.
Mais justement, vous avez raconté avoir été entourée très vite, très jeune, par cette maladie qui a aussi hanté votre enfance. Elle vous fait encore peur, la maladie? C'est quand même quelque chose que vous n'avez pas pour autant exorcisé. Quand ça vous touche, vous, quand ça nous touche, nous, c'est plus difficile de vivre avec cette blessure.
Non, au contraire, je ne pensais jamais à la maladie. Non, pas du tout. Au contraire, je sais que ça fait partie de la vie, mais c'est pas une chose qui était à laquelle je pensais. En ce moment, évidemment, qu'on y pense et qu'on pense, mais en même temps, je veux dire, il faut aussi en plaisanter. Il faut, sinon, ça devient trop lourd. Les 4 premiers jours du confinement, je n'ai fait que regarder la radio, la télé. Puis, j'ai dit, c'est fini, j'arrête tout ça. Parce que de toute manière, tout était contradictoire, c'est normal, personne ne savait vraiment ce qui va se passer. Maintenant, d'ailleurs, je ne sais pas si on sait beaucoup plus, mais à un moment, il faut dire stop, quoi. Il faut essayer d'être soi, de travailler, de vivre avec ça, mais d'en faire quelque chose ou pas. On est tout à fait libre. Et moi, je me suis sentie toujours tout à fait libre et dans ce confinement, j'étais vraiment libre. Je suis pas très déconfinée, vous savez. Mmh. Parce que moi, où je suis en confinement, où je suis en voyage, j'ai eu beaucoup de choses d'annuler à New York, à Dallas. Bon, ça, les voyages sont annulés, c'est certain.
Donc c'est peut-être une période différente qui s'ouvre et l'occasion de repenser aussi sa pratique avant de voir comment tout ça va évoluer. En préparant cette entretien avec vous, Annette Messager, j'ai repensé à votre œuvre Chimère que vous aviez révélée au public au début des années 80 et à cette chauve-souris immense. Elle symbolise quoi dans votre bestiaire artistique, la chauve-souris? On parlait tout à l'heure de la couleur noire dans votre art. La chauve-souris, qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous?
Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un animal étrange, volant, tout noir, qui se replie d'une manière étrange, avec la tête en bas, qui fait peur. En même temps, c'est très joli, les petites chauves-souris. Je me souviens, en Australie, j'avais dîné avec un arbre au-dessus de moi qui était plein de chauves-souris. Mais je ne peux pas dire que ce soit vraiment sympathique, mais je l'ai transformé en partie de corps humain, en fragments. Oui, j'ai fait pas mal de chauves-souris. Mmh.
Faire de l'art, c'est truquer le réel, disiez-vous. Il va falloir sérieusement le truquer, le pervertir, hein, ce réel, pour essayer de rouvrir aussi les imaginaires. Vous faites partie de ceux qui ont signé une tribune, c'était dans Libération au début du mois, estimant, en tout cas cette tribune appelait à ne pas penser la défense de la culture sans y inclure tous ceux qui ont été passés sous silence. L'art est élitiste, hein, disiez-vous à l'instant. Comment faire aussi pour rouvrir maintenant les portes de l'art et donner accès au plus grand nombre?
Ben c'est vrai que les plasticiens sont très mal organisés par rapport aux intermittents, par rapport aux spectacles. Donc on ne parle que d'eux, mais moi je travaille avec des jeunes gens qui sont artistes-auteurs, qui sont aussi artistes eux-mêmes, jeunes artistes. Bon, ben eux, ils sont complètement oubliés. Ils ont eu un petit truc au début. Et maintenant, où les institutions, les installateurs, rien ne rouvre vraiment avec des nouveaux projets. Donc, ces gens se retrouvent sans rien. J'avais vu Pascale Ferrand. Et elle écrit, mais les gens qui écrivent les dialogues pour le cinéma, alors eux, ils n'ont rien. Et pourtant, les dialogues dans les films, c'est extrêmement important. Donc il y a des tas de métiers comme ça, artistiques, installateurs, jeunes assistants qui n'ont rien.
Pascale Ferrand, la réalisatrice, cinéaste, des métiers qu'il va falloir soutenir ou en tout cas trouver les moyens pour chacun de continuer à assurer aussi sa pratique. Merci beaucoup à vous, Annette Messager, d'avoir été avec nous. Merci mille fois. Merci. On vous retrouvera, j'espère, bientôt en France. En attendant, prochaine exposition à laquelle vous prendrez part, Unprecedented Times, ce sera au Kunsthaus de Bregenz en Autriche jusqu'à la fin août. Je ne sais pas si on pourra voyager jusqu'à l'Autriche pour la voir. Merci à vous.